Aujourd'hui, on va parler de comment Dieu, en réalité, il a un meilleur plan pour notre vie que tous nos idoles. Et tu peux avancer, s'il te plaît. Alors, j'ai gardé cette même image, étrangement, un idole, hein, de Cyrus, Cyrus le Grand, celui dont on a parlé la semaine dernière. Alors, en venant à Paris, on avait nos yeux fixés sur, déjà chercher un appartement à une époque où tout n'était pas encore sur Internet. C'était pas facile. Et je me rappelle que on était à deux doigts de signer sur un appart dans la Chapelle. Hein. On était très contents de l'avoir trouvé après s'être vraiment battu. Pour y arriver. Et puis, quelque chose étrange s'est passé entre le temps où on allait signer. C'est que le propriétaire a décidé de le louer à d'autres personnes. Et qu'on était vraiment déçus, au fond du puits. Mais ce qui était absolument étonnant, hallucinant, c'était le fait que ce agent immobilier, c'est pas caractéristique de leur métier, mais elle nous a pris en main et puis elle nous a montré notre appartement. Donc c'était à la porte de Clignancourt et c'est là où finalement on a signé. Et c'était génial parce que en fait cet appartement-là était beaucoup mieux et mieux adapté pour nous et ce qu'on voulait faire à l'époque. On avait une belle vue sur le Sacré-Cœur et on pouvait même voir de loin la Tour Eiffel. Donc pour des Américains qui débarquent sur Paris, c'était le rêve. Bon. Voilà en quoi, Dieu avait un meilleur plan que nous. Et là, on était très, très contents de le voir parce que ça nous a enseigné, c'est une leçon justement qu'on se rappelle souvent, il est toujours bien d'ailleurs, de faire cet exercice de mémoire, de se rappeler quand Dieu a fait les choses et quand il se révèle à nous parce que toute notre vie, vous savez, est un apprentissage à le connaître. Et donc, justement, cette expérience nous a appris sur sa provision. Comment sa provision et ses plans sont meilleurs que les nôtres aussi. Et donc, ce passage va un peu dans ce sens. En fait, Dieu envisage un meilleur avenir pour son peuple que leurs petites idoles ont préparé. Eh bien, deuxièmement, on va voir comment, avec tout cela, et comment il fait vraiment rase table de toutes ses attentes idolâtres, il ouvre, en fait, une voie de salut si merveilleuse qui, en fait, se trouve en Jésus-Christ. Et voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on est en Ésaïe 45, et je vais commencer avec le verset 14. Dieu envisage un meilleur avenir pour son peuple. Et tout commence avec un changement. Le changement, en fait, qu'il annonce. Verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens, hommes de haute taille, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés et ils se prosterneront devant toi et t'adresseront leurs prières. C'est chez toi seulement qu'est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Les dieux sont néants. Alors, enlevé de son contexte, ce petit passage est assez fort. Dans son contexte, je trouve il est encore plus fort. Mais on se demande déjà, l'Éternel parle à qui? Parce que c'est ça qui est le plus important. Alors, voyons que on a des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière. Justement, je comprends pourquoi vous pouvez vous demander. D'abord, les gens peuvent penser que c'est peut-être à Israël. Donc, ils parlent à Israël. Et si c'est le cas, là, on voit avec les Égyptiens et les Sabiens les Cushites et tout ça, qu'en fait, c'est comme les promesses de Dieu qui sont annoncées en Deutéronome qui arrivent. Et on peut, il y a même certains commentateurs qui parlent du millénium, le règne de 1000 ans de Christ. Mais le grand problème avec ça, c'est le verset 17 qui dit « Quant à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient un salut ». C'est-à-dire que ça ne colle pas si on adopte cette idée-là. Non, il faut garder ça dans son contexte. Et le début de ce chapitre, Dieu s'adresse en premier plan à Cyrus, ce roi qui n'est pas encore né à l'époque, ce roi perse, qui va permettre aux Israélites de revenir sur leur territoire. Donc, oui, il s'adresse à Israël, mais en deuxième plan. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est Dieu qui dit que, écoute, bien qu'à ton époque, Égypte, ou à l'époque des Israélites, Égypte, c'est le grand puissant nation. Éthiopie aussi, les Sabiens, mais Égypte. Maintenant, il est en train de tout changer, tout bouleverser. Et cet homme, Cyrus, va venir, qui sera vraiment un vecteur de ce grand changement. Et toutes ces nations vont s'incliner devant cet homme. Cet homme qui va permettre à Israël de rebâtir leur temple. Un homme qui, certes, est païen, qui ne connaîtra jamais à notre connaissance Dieu, mais qu'importe, Dieu se sert de lui pour sa gloire et va l'utiliser même pour apporter les richesses nécessaires de rebâtir son temple. Un changement est à venir et donc le peuple de Dieu doit justement porter l'oreille. Car dans ce contexte, il parle de quelque chose qui est absolument différent, une nouvelle relation qui est un meilleur plan des idoles. Verset 15. Certes, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec confusion, les ciseleurs d'idoles. L'idée de Dieu qui se cache. Attention, c'est une figure de style. Hein. C'est pas que voilà, Dieu se joue au cache-cache avec le peuple ou autre chose comme ça. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il est invisible. Et là, c'est en opposition totale aux idoles qu'il a dénoncées. Les idoles qui sont fabriquées par les mains, les petites statuettes et tout, qu'on puisse voir. Non, Dieu, il est invisible. Et Dieu est quand même celui qui a demandé à son peuple, dans les 10 commandements, de ne pas faire de représentation non plus de lui. De toute façon, comment est-ce qu'on peut décrire Dieu dans un sens qui puisse être absolument et parfaitement répliqué par un artiste? On n'imagine pas. Nous ne sommes que des humains. Oui, on peut faire de l'art. Oui, absolument. On est bien d'accord. On peut faire des représentations de notre amour, de notre adoration et plein de choses. Mais créer une représentation de Dieu comme font les païens, ce n'est pas possible. Donc, il est un Dieu qui, pour ces nations et pour ces gens donc qui sont habitude à voir donc les dieux visibles, il est comme un Dieu qui cache. Il est invisible, mais il est le Dieu d'Israël. c'est lui qui a sauvé Israël, c'est lui qui a choisi Israël, qui a créé en quelque sorte Israël à partir d'un homme, Abraham. Et il est sauveur. Donc, par cette phrase même, c'est encore une dénonciation donc de toute représentation physique de cette divinité qui n'existe même pas. C'est un changement radical de la relation et aussi la théologie pour certains qui ne louent que ce qu'ils voient et ce qu'ils peuvent toucher, ce qu'ils peuvent ressentir. Il est le Dieu sauveur. Il sauve, il libère. Il est invisible. Donc on ne peut pas créer une image pour le représenter correctement. Pourtant, il agit librement dans notre monde physique, comme nous tous d'ailleurs. Même si on ne le voit pas, on le ressent. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous qui avons un cœur qui a été purifié par Christ, nous le voyons, même sans le voir. Nous voyons, et un peu comme Jésus a dit aussi, vous entendez l'esprit, enfin, le vent. Et vous connaissez donc qu'il est là, qu'il est agissant parmi nous. Et c'est surtout donc toute cette idée, cette théologie est en contradiction totale à leur vision du monde, mais attention, ce n'est pas juste à eux, il y a 2700 ans, c'est aussi tout à fait à l'encontre de notre monde. Notre monde qui a aussi ses idoles et qui ne cesse lui-même de louer de ce qu'il voit et de ce qu'il peut toucher, de ce qu'il peut imaginer, de ce qu'il peut faire par lui-même. Ce qu'ils peuvent économiser et toutes ces manières de préparer ce qu'il fait. Non, notre monde aujourd'hui a ses moyens, ses dieux et donc notre culture, comme la culture de l'époque, n'est remplie que des signes de ce qui est visible. Et donc, les promesses qui sont faites à Israël, qui sont faites même aux nations idolâtres de l'époque, qui ne seront ni laissées pour honteux, ni laissées tomber, abandonnées, s'ils mettent leur foi en Dieu, c'est une promesse pour nous. Et c'est comme ça, et comme cela seulement, que Israël et le peuple de Dieu puissent connaître le salut. Justement, verset 17. Compte à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut. Un salut éternel. Et vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Comme il parle donc d'une salut éternel, on pense à qui? Oui, à Jésus. Il n'y a que Jésus qui puisse sauver éternellement. Parce que sans Christ, c'est impossible. Ça, c'est pourquoi traditionnellement, les commentateurs ont pensé que c'est une référence à l'Église. Mais je ne pense pas honnêtement que Ésaïe avait ça en tête. Pourquoi? Parce qu'il le dit, c'est les premiers trois mots, compte à Israël. Donc c'est assez clair à mes yeux, il pensait à Israël comme le peuple élu qui connaît Dieu. Pourtant, même dans son discours, c'est implicite que ce n'est pas tout Israël, ce n'est pas juste parce qu'on est né dans cette nation qu'on est apte à connaître Dieu. Parce que si finalement on est tellement attaché à nos dieux, à nos propres idoles ou le reste, ben, il n'y aura pas de place dans notre vie, dans notre cœur pour Christ. Donc évidemment, il y a une distinction. On parle à ceux qui abandonnent leurs idoles, ils se tournent vers Dieu. C'est probablement ce que Paul avait à cœur aussi, en parlant du salut qui vient par la foi et non par les œuvres. Dans Romains, chapitre 9 et 11, en parlant de donc de ce plan de Dieu éternel. C'est certainement aussi ce à quoi Jésus pense aussi lorsque, en Jean chapitre 17, verset 3, nous lisons que « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Quelque part dans notre pensée, voilà une belle idole dans notre monde. On est tellement fixé sur le repos et l'au-delà qu'on a créé toute une image du ciel et le paradis qui n'est pas du tout biblique. Oui, il va y avoir une nouvelle Jérusalem. Oui, il va y avoir des nouveaux cieux et une nouvelle terre et tout cela, oui. Mais dire que la vie éternelle n'est juste qu'après la mort est faux. Jésus dit là, très explicitement, très clairement, que la vie éternelle commence ici et c'est de connaître Dieu. La seule manière de connaître Dieu, c'est d'être né de nouveau. Et donc, le fait que nous sommes nés de l'Esprit Saint, ça veut dire que nous sommes déjà, même si nous marchons sur cette terre, c'est comme nous avons un pied dans l'éternité, qu'il y a cet renouveau, le royaume de Dieu qui atteint la terre dans les cœurs des hommes et des femmes qui connaissent leur Dieu. C'est vous donc. Et c'est pourquoi on dit que Dieu a un meilleur plan que les idoles. Les idoles que, à l'époque de Cyrus, qu'est-ce qu'ils avaient envisagé? C'était la subjugation des peuples, bien sûr, pour que tout le monde soit des esclaves du grand roi perse. Ah, mais Dieu a un meilleur plan que cela, parce qu'il libère les captifs, parce qu'il adopte les hommes et les femmes dans cette immense famille de Dieu, qui nous donne son esprit par lequel nous crions « Abba, Père ». Il a un meilleur plan pour nous. Et en plus, il ouvre maintenant sa voie, la voie du salut. Il n'y a qu'une seule voie. Et personne ne suivra Dieu en vain. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, lui, le seul Dieu, qui a façonné la terre, qui l'a formée et qui l'a affermie. Il n'a pas créé vide. Il a façonné pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste. Je proclame ce qui est droit. Et c'est comme ça qu'il appelle maintenant les nations. Il parle ouvertement, et c'est dans un passage assez rare pour l'Ancien Testament où il adresse à toutes les nations maintenant. Et c'est à eux, c'est à nous de témoigner de ce qu'il a fait avec Israël. Et pas juste Israël, ce qu'il a fait dans cette création que nous avons. Création d'ailleurs que, selon Romains chapitre 1, nous donne les traits invisibles de Dieu presque à notre portée pour que nous soyons, même sans excuse, ceux qui ne croient pas ou ne veulent pas croire parce qu'il retient la vérité captive. Nous savons qu'il est là parce que ses empreintes sont là. Même si on n'habite que dans ce 6e arrondissement de Paris et on ne sort jamais, les empreintes de sa réalité sont toujours là. Il y a la scène où on peut voir justement comment il a créé toute chose, mais il y a des leçons qu'on peut voir. On peut voir aussi les beaux couchers du soleil. On peut aussi voir dans le fait que même dans un cadre tel que nous avons ici, il y a des choses beaucoup plus fortes comme la création, les petites vers qui poussent dans cette ville, les petites bouts de l'herbe qui poussent aussi dans les craques, dans les pavés. Enfin, Dieu est là. Dieu est là et il nous appelle. Et il veut justement nous interpeller. L'Éternel ne parle pas en vain. Ceux qui cherchent Dieu ne cherchent pas Dieu en vain. Il accomplit toujours sa parole, Cyrus, les a renvoyés chez eux. Et Jésus est venu exactement comme ça a été dit. Toujours fidèle à sa parole, Dieu les invite maintenant à le connaître. C'est ça toujours le but. Verset 20. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont pas de connaissance. Ceux qui portent le bois de leur statue et qui intercèdent auprès d'un Dieu qui ne peut les sauver, annoncez-le et présentez vos arguments. Qui prennent conseil les uns des autres, qui a fait entendre cela depuis des origines et depuis lors les a annoncés. N'est-ce pas moi, l'Éternel? En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Un Dieu juste qui sauve, à part de moi, il n'y en a aucun. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Vous, tous les confins de la terre, car je suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Alors là, dans un passage absolument clair où il s'adresse à toutes les nations, c'est sans doute visé dans d'autres passages aussi, dans le Nouveau Testament, où Paul, lorsqu'il a parlé justement de ce mystère caché depuis les âges, justement comment Dieu allait se manifester aux païens, là, nous sommes face à un tel passage. Je vous rappelle, on est des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus-Christ, avant qu'il dise à ses disciples, « Allez, et faites des disciples de toutes les nations. » Dieu était en train de révéler son grand plan. C'est merveilleux. Dieu envisage le salut de toute nation, homme, femme, enfin, tous ceux qui veulent venir sont invités à venir. Où il dit, à part de moi, il n'y en a aucun. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Là, on pense à un prédicateur de l'Évangile. Si, c'est un prédicateur de l'Évangile, c'est Ésaïe, donc, qui parle prophétiquement par le Saint-Esprit. Même en envisageant cette époque merveilleuse, en Apocalypse, chapitre 7, où il y aura des gens de toute nation, toute tribu, toute langue qui se tient devant le trône de Dieu avec les palmiers qui louent l'agneau nuit et jour. Il est le seul Dieu vivant, le seul. Il est le seul sauveur. Et les appelle. Venez. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Et c'est la refrain de cette chanson de salut. Son offre de salut. Certes, c'est un peu... C'est exclusif, hein? Même s'il inclut tout le monde, comme Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, hein? Jésus a dit aussi, en Jean 14, 6, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et s'il doit dire « Nul ne vient au Père que par moi », c'est-à-dire qu'il y a donc un choix. Puis, il fait une promesse. Une promesse qui est et qui ne peut être accompli en dehors de Christ, et seulement accompli en Christ. Verset 23, où nous lisons, « Je le jure par moi-même, de ma bouche sort ce qui est juste. Une parole qui ne sera pas revoquée, tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. » Ça vous parle de quelque chose, ça vous fait penser à un autre verset, certainement. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. En l'Éternel seul, dira-t-on, résident pour moi, les actes de justice et de force. À lui vient ceux qui étaient en rage contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et ils se glorifieront, tous les descendants d'Israël. Et là, ça c'est la promesse de Jésus, le Sauveur, le Rédempteur. En fait, vous avez certainement entendu ce passage parce qu'il est cité en Philippiens, chapitre 2, verset 10. « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. » Donc, réfléchissons un petit peu. Si ce verset que nous venons de citer en Ésaïe est recité donc en Philippiens. Philippiens, et je vous rappelle que c'est l'Éternel qui parle et c'est l'Éternel qui dit « Tout genou fléchira devant moi ». Je vous rappelle que le mot « l'Éternel » qu'on a en français, c'est le nom Yahvé, le nom très saint de Dieu. Si il dit « De ma bouche sorte ce qui est juste, une parole qui ne sera pas revoquée, tout genou fléchira devant moi, toutes les langues prêtera serment devant moi. » Et puis en Philippiens, ce mot est repris dans ce sens pour dire « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus est le Christ à la gloire de Dieu le Père. » Qu'est-ce que ça fait de Jésus? Dieu le Fils. Il est Yahweh. Et là, il est important de réaliser la portée de ce passage. D'ailleurs, certains experts, même non chrétiens, pensent que cette citation en Philippiens fait partie d'une première chant ou cantique de l'Église. Certainement écrit dans des années suivant la résurrection. Et qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que les premiers chrétiens, le lendemain après la résurrection de Christ, avait déjà la connaissance que Jésus est Dieu le Fils. Et donc, c'est très important pour nous, surtout lorsque on rencontre des gens tels que les témoins de Jéhovah ou autres qui aimeraient bien renier la divinité de Christ, ou même des athées qui reviennent après ou pour dire, ben voilà, donc tous, ou même Michel Onfray qui disent que les doctrines de l'Église ne sont venues que des centaines d'années après. En fait, c'est faux tout cela. Et il y a des bonnes preuves théologiques et autres pour nous montrer que, non, en réalité, l'Église a compris tout de suite. Et donc, comme Israël, nous aussi, c'est à nous de célébrer notre Dieu rédempteur, parce que nous le connaissons. Et un jour, tout genou fléchira devant lui, tout. Israël glorifiera Dieu d'une manière ou d'une autre. Son Église le glorifiera d'une manière ou d'une autre. Mais saisissons cette réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans un endroit, dans une place où nous avons le choix réellement. Et quel dommage de vivre justement toute sa vie, ne jamais donner gloire à Dieu avec ce qu'on fait, ce qui nous sommes. Aujourd'hui, on a une belle occasion que par son Saint-Esprit, nous pouvons mettre notre vie entre ses mains. Oui, Dieu a un meilleur plan pour notre vie que les idoles. En conclusion, Israël avait fixé les yeux de comment Dieu allait les sauver. Ils avaient les idées. Et comment est-ce que Dieu devait les sauver? Ah, c'est très facile. Il envoie un roi qui crée donc son empire davidique et donc il anéantit, il tue tous ses ennemis et donc il crée leur propre royaume là sur terre. Voilà comment Dieu devait les sauver. Et ça, c'est exactement comme tous les autres peuples du monde. Triste. Mais ce n'était pas l'idée de Dieu. Non, Dieu avait un meilleur plan. Oui, le roi est venu. Le fils de David est venu. Mais au lieu de subjuguer les nations et tuer tous ses ennemis, lui, il s'est donné lui-même en tant que sacrifice pour que maintenant, ayant vaincu la mort et le péché, il invite tous ceux qui croient en lui à venir, à recevoir la vie éternelle. Ce qui s'est passé avec Israël est ce qui est absolument typique dans notre monde aussi. Combien de temps sommes-nous contentés avec moins, alors que Dieu, son plan pour nous est merveilleux? Ou bien, quels sont tous les mensonges que vos idoles vous ont menti et vous a fait aveugler, alors que Dieu a un meilleur plan pour vous? Aujourd'hui est le moment de laisser tomber ces choses et de revenir à lui. Ce qui est vrai pour notre salut est vrai aussi pour la vie de tous les jours. Faites-lui confiance, car Dieu a un meilleur plan que tous les idoles. Amen.